Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Cœur de patrimoine, numéro donc de rentrée. Ravi de vous retrouver après cette pause estivale pour cette émission qui vous est dédiée, qui est dédiée à la gestion de votre patrimoine et à l'optimisation de vos placements. Chaque mercredi, vous le savez, les experts se mettent dans votre camp pour vous apporter des conseils, des analyses, des décryptages afin de vous aider à faire les meilleurs choix d'investissement. Alors, au sommaire de ce 55e numéro de Cœur de patrimoine, on va d'abord parler private equity. Ça séduit de plus en plus d'investisseurs et au cœur de cette tendance, il y a les PME et les ETI, véritables moteurs de croissance, mais encore trop souvent, peut-être un peu trop difficile d'accès pour le grand public. Alors comment intégrer ce type d'actifs dans une stratégie patrimoniale? Quels sont les rendements que vous pouvez espérer? Quels sont les risques qu'il faut anticiper? Réponse à suivre. Et puis pour attaquer la rentrée avec toutes les clés en main, on fera un tour d'horizon complet des marchés à un moment où les interrogations sont nombreuses et les signaux parfois contradictoires. C'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et aujourd'hui, donc, pour débuter ce cœur de patrimoine de rentrée, on parle de cet univers d'investissement qui séduit de plus en plus d'épargnants, institutionnels comme particuliers, le private equity. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Defoucault. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci beaucoup d'être au rendez-vous, directeur de la clientèle privée chez Turenne Group, spécialiste du capital investissement et notamment dans ces small caps que j'évoquais. Peut-être d'abord une présentation rapide de Turenne Group en quelques mots. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui fait votre spécificité dans ce paysage de ce qu'on appelle le capital investissement?
Alors Turenne, c'est un fonds d'investissement qui a été créé il y a 25 ans, qui gère aujourd'hui 2 milliards d'actifs, qui sont investis dans à peu près 300 entreprises, un petit peu plus. Ça veut dire à peu près 40 000 salariés derrière ces entreprises. Et aujourd'hui, c'est 85 personnes réparties sur 8 bureaux, donc à Paris, à Lille, à Marseille, à Nice, à Montpellier, à Bordeaux et à Nantes. Et donc voilà, c'est ça Turenne. Turenne, on a des fonds qui sont des fonds sectoriels. Donc il y a 4 thématiques. Il y a la santé, il y a les services et le digital, l'hôtellerie et l'innovation. Et puis à côté, vous avez des fonds qui sont des fonds régionaux, donc notamment dans les Hauts-de-France, dans la région PACA et dans les Pays de la Loire.
Alors voilà, description faite. Et quand on parcourt un petit peu votre site, on voit tout le temps s'afficher leader du small cap indépendant. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça recouvre finalement? J'ai envie de dire, quel est votre plus, votre valeur ajoutée par rapport aux grands noms, aux grands fonds du capital risque ou ceux qu'on connaît comme grands investisseurs institutionnels?
Alors, Turenne, c'est spécifiquement le small cap. Le small cap, c'est quoi? Ce sont des PME. PME, ça veut dire moins de 250 salariés. Donc, ce sont finalement des petites, moyennes entreprises qui sont en région principalement. Mmh. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un segment de marché qui est un peu délaissé par les grands fonds de private equity qui ont changé de taille quelque part et donc qui ont augmenté la taille de leur cible. On parle de valorisation comprise entre 20 et 80 millions. Donc un grand fonds qui fait plusieurs milliards,
ouais, bien sûr.
Eh bien voilà, il va aller chercher
des
cibles beaucoup
trop spécialisées,
plus grosses. Donc aujourd'hui sur ce segment, il n'y a plus grand monde et ceux que ça intéresse, c'est soit des structures régionales, des banques régionales qui veulent investir pour soutenir le développement de leur territoire, soit des mutuelles, qui peuvent être aussi régionales, quelques investisseurs, il y a la BPI évidemment, il y a quelques autres investisseurs, mais il n'y a plus grand monde sur ce sujet-là.
Alors, j'imagine que lorsqu'on dit investir dans ces PME, dans ces ETI, c'est aussi les accompagner et c'est aussi être assez sélectif. Alors, vous nous avez dit quelques mots à travers vos fonds, mais j'imagine qu'il y a des secteurs qui, aujourd'hui, ont, entre guillemets, votre préférence. Alors, pourquoi ?
Alors, les secteurs dans lesquels on investit principalement, donc il y a la santé, donc évidemment avec l'évolution de la démographie, c'est un segment de long terme qui est intéressant, qu'il faut adresser, c'est important, voilà, et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le sujet des services aux entreprises et du digital, le logiciel, hein, principalement, Donc ça, évidemment, c'est les segments, les deux, enfin, ce segment-là, en tout cas, c'est un segment qui nécessite moins de, d'investissement, d'immobilisation longue. Donc c'est peut-être plus rentable. Et puis derrière, il y a les sujets d'hôtellerie qui sont historiques chez Turenne et qui parlent aussi à certains de nos clients. Les sujets d'innovation, ça c'est très historique, puisqu'il faut remonter quand même aux années 2000 avec les sujets de défiscalisation. C'est en train d'évoluer ce sujet d'innovation.
Alors, c'est vrai que lorsque l'on s'intéresse à ces PME, à ces ETI, on s'aperçoit que le vivier est excessivement riche. Et c'est vrai qu'en ce moment, et on va le voir dans la suite de l'émission, on traverse une période, comment dire, incertaine, un petit peu compliquée, avec de l'inflation, des remontées de taux, un petit peu de questionnement sur la croissance. Comment est-ce que vous faites pour, dans ce vivier, finalement, que constituent toutes ces PME, toutes ces ETI, en province notamment, pour identifier les entreprises qui offrent vraiment un potentiel pour leur développement, pour vos clients, pour vos investisseurs?
Alors, il y a deux canaux. Il y a les spécialistes du M&A qui peuvent nous solliciter.
Donc, les fusions-acquisitions.
Oui, les grands. Mais souvent, la taille de leurs entreprises sont supérieures. Donc, c'est aussi beaucoup sur le réseau des équipes d'investissement. C'est le bouche-à-oreille, en réalité.
Il y a une question de philosophie, j'ai presque envie de dire, quand on accompagne comme ça cette taille d'entreprise, parce que vous rappeliez que les grands s'adressent aux grands. Donc, c'est vrai que là, les managements sont peut-être un peu compliqués à adresser, à rencontrer, à accompagner. Vous êtes... plus qu'un simple investisseur, j'ai envie de dire, quand on met les pieds dans une PME, dans une ETI, on n'est pas juste, entre guillemets, un portefeuille qui arrive. Il y a aussi toute une gamme d'accompagnement, de connaissances croisées, d'expertise qui se dilue.
Alors, tout à fait. Je pense que le modèle du financier passif, c'est un modèle du passé. Donc ça n'existe plus. On ne crée pas de la valeur comme ça. Donc, pour créer de la valeur, il faut accompagner un dirigeant, notamment sur sa stratégie de développement. Donc ça, c'est très important. Alors, chez Turenne, il n'y a pas d'operating partner comme dans les grands fonds.
D'accord.
Mais par contre, on a un réseau d'experts qui permet d'accompagner les clients, les entreprises sur ces sujets. Et puis, on peut avoir des sujets de croissance externe. C'est un élément très important, la croissance externe. La croissance externe, ça veut dire que les équipes d'investissement de Turenne vont s'impliquer dans ces sujets-là. Et puis, il y a un sujet également qui est de management. Gérer une entreprise de 15 salariés ou de 150 salariés, ce n'est pas la même chose. Et donc, quelquefois, il va falloir renforcer la structure. Et ça, c'est quelque chose de très concret, hein, où on peut être sollicité pour aller chercher. Et donc, on peut mandater un chasseur de tête pour trouver la bonne compétence, ou on peut aussi chercher nous-mêmes, oui, par le bouche à oreille.
Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus loin que le simple « j'apporte de l'argent », comme vous le disiez, qui est un modèle
passé. C'est le modèle du passé, oui.
Ça, c'était un peu le regard, on va dire, professionnel de nos CGP qui nous écoutent, etc., dans ce monde de la gestion de patrimoine. On a aussi pas mal d'épargnants qui sont à l'écoute de Radio Patrimoine régulièrement. Et c'est pas mal d'avoir votre regard aussi pour les conseiller là-dessus. En quoi est-ce que ce private equity, et donc plus singulièrement, puisque c'est votre dada, les small caps, est intéressant à intégrer dans une stratégie patrimoniale? On le rappelle, hein, comme variable de diversification, on est d'accord, ce n'est pas le cœur de son patrimoine, mais voilà, en quoi est-ce que vous avez 2-3 arguments, 2-3 petits tips comme ça à donner à un épargnant qui aujourd'hui découvre un petit peu peut-être cette catégorie d'actifs?
Alors, je pense qu'il y a deux éléments très importants. D'une part, la diversification, parce que quand on va dans le small cap, ce n'est pas les mêmes dynamiques que dans le mid-market ou le large cap, c'est-à-dire... Aujourd'hui, quand on regarde les problématiques de taux d'intérêt, les problématiques de barrières douanières avec les États-Unis, tout ça, quand on a une PME française, elle va s'adresser avant tout au marché français.
Donc, on n'est pas, entre guillemets, concerné au premier
pays,
chef.
Et pays limitrophes, je dirais. Mais voilà, ce n'est pas une petite PME française qui va aller exporter la majeure partie de sa production aux États-Unis. Donc, ça, c'est important. Alors, elle peut être sous-traitante quand même d'entreprises plus grosses.
Et puis dans les petites, il y a aussi des leaders mondiaux. Mais bon.
Voilà. Donc c'est possible, mais voilà. Donc ça, c'est un des éléments. Le sujet sur la dette aussi, les PME sont moins endettées que les entreprises plus grosses. Donc évidemment, les taux là, ont un peu baissé depuis le début de l'année quand même. Mais voilà, dans un contexte où la dette coûte plus cher, elles sont quand même un peu moins impactées.
D'accord.
Et puis, la PME, c'est peut-être plus concret pour un investisseur. Et donc, du coup, ça peut donner un peu plus de sens à l'investissement d'un particulier.
Oui, et puis ce qu'on disait aussi, c'est qu'on a peut-être, même en termes de reporting de votre part, peut-être de transparence et d'accès direct à la boîte et à son...
Oui. Mais quand on se promène, moi je dis souvent, quand on se promène sur l'autoroute, ah bah tiens, celle-là, je la connais,
elle est dans mon fond.
Elle est dans mon portefeuille, oui.
Alors justement, les particuliers, aujourd'hui, ils peuvent accéder directement à vos fonds ?
Alors, historiquement, c'était la DEFISC, donc l'innovation. Après, on a eu la DEFISC, c'était l'innovation, et puis c'était aussi l'hôtellerie.
D'accord.
Après, on a eu aussi des fonds régionaux qui ont été mis en place avec des partenaires, donc des banques, que ce soit dans le nord, dans le sud, à l'ouest maintenant. Donc ça, c'est via ces partenaires qu'on rentre dans ces fonds. Ce qu'on en a fait également, c'est un fonds semi-liquide, compte-titres. Il a une particularité, et je pense que j'imagine que c'est le seul sur le marché, il est au quota fiscal.
D'accord.
Donc ça, beaucoup de fonds semi-liquides sont dans l'assurance vie, peu sont en compte-titre comme ça avec le quota fiscal. Je reviendrai sur le sujet si besoin. Donc celui-là avec des seuils qui sont un petit peu plus élevés. Donc là on parle, en fait, tout ce qui était des fiscs, c'était à partir de 1 000 euros. Ce qui était les fonds régionaux, c'est 1 000, 2 000 euros. Donc c'est des petits montants. Le côté semi-liquide, c'était 100 000 euros. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes investisseurs. Ouais. Et puis, les fonds, on a des fonds qui s'adressent plutôt à des institutionnels. On a quand même des particuliers à l'intérieur de ces fonds, mais c'est des tickets minimum de 250 000 euros. Ouais. Donc, on est encore dans une strate un petit peu supérieure.
Voilà un petit peu la typologie. Je vais être grossier, mais on va parler peut-être un peu et rendement et risque. À quoi il faut s'attendre ? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? Et puis, à quoi il faut faire un petit peu attention ?
Alors, quand on est dans les thématiques de santé, de services, de digital, on peut aller chercher une performance deux fois le capital net investisseur, deux fois le capital investi, et entre 15 et 20% de TRI. Donc, connaît sur
performant.
Un marché, assez performant. Quand on va rentrer dans des sujets hôtellerie, c'est pas tout à fait les mêmes sujets. Alors, dans l'hôtellerie chez Turenne, c'est avant tout une stratégie de transformation du fonds de commerce, de valorisation. Ce n'est pas de l'immobilier au sens propre, c'est de l'entreprise en fait, en réalité. Et donc là, on va chercher peut-être à faire 1,8 fois le capital investi et un TRI qui va être 10-12% par an, bon. Net investisseur. Quand on rentre dans les fonds de DEFISC, là c'est un autre sujet.
Ouais.
C'est pas tout à fait les mêmes rendements. Donc si on parle de risque, évidemment, il y avait les avantages fiscaux, mais la performance n'est pas la même.
Oui, mais c'est valable d'ailleurs.
Il faut être honnête.
Ouais, c'est valable pour tous les produits, entre guillemets, estampillés fiscaux. Quoi. C'est-à-dire qu'on rappelle que régulièrement, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. L'avantage fiscal fait une grande partie de la performance. C'est vrai, le private equity, je le disais en introduction, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus souvent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands qui ont sorti des produits, qui s'adressent de plus en plus aux épargnants particuliers, on va dire, alors qu'avant, c'était un petit peu un marché pour happy few ou pour épargnants avertis. Vous le voyez vous-même, cette espèce de révolution, de changement peut-être de culture chez les investisseurs français, chez les épargnants qui se disent finalement mettre un peu les mains dans le cambouis, m'intéresser à la façon dont tourne une boîte, etc., via mes investissements, plutôt que de prendre une action cotée au CAC 40 ou sur le SPI 500 aux États-Unis. Enfin bref, est-ce que vous sentez un petit peu peut-être ce goût un peu différent ?
Ah, mais on voit clairement la transformation. Hein, quand, moi, ça fait 25 ans que je m'intéresse à cette classe d'actifs. Les années 2000, c'était de la défisque, oui. Des tout petits tickets. Les années, je dirais, 2010, c'était plutôt réservé pour les particuliers à des gens assez fortunés et assez, qui avaient de la chance d'accéder à cette classe d'actifs. Ce qui a changé, le point de rupture, c'est la loi Pacte, clairement, 2019. C'est le fait qu'on veuille ouvrir à l'assurance-vie. Je pense que le sujet d'assurance-vie, maintenant, tout le monde l'a bien en tête. Le sujet d'après, c'est les PER, même si ça fait partie de la loi Pacte, mais c'est encore quelque chose à développer. Et puis, ce qui aussi a beaucoup changé, contribué à aider au développement de ces classes d'actifs, c'est la multiplication des canaux de distribution.
Bien sûr.
Hein, avant, c'était le fonds qui allait chercher ses investisseurs. Maintenant, on travaille avec des intermédiaires. Ces intermédiaires, c'est des banques, c'est des family office, c'est des réseaux de CGP. C'est,
donc forcément, on parle aussi beaucoup plus de vous.
Ouais. Et qui vont éduquer aussi beaucoup leurs clients, en fait.
Et puis dans les médias aussi, parce qu'avant, on parlait un petit peu moins de cette classe d'actifs. Il reste des freins quand même ou pas aujourd'hui? On peut faire encore mieux?
Je pense dans les freins importants, c'était la durée et la liquidité. Et un des changements actuels, ce sont les fonds semi-liquides. Alors évidemment, la promesse de rendement d'un fonds semi-liquide et sa liquidité... Il faut prendre un peu de recul.
La liquidité, elle a toujours un coût.
Elle a un coût, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand vous faites, moi, je fais ce calcul-là. Quand on dit qu'on va faire 12 à 15% avec un fonds de private equity qui appelle ses capitaux au fur et à mesure, enfin les capitaux des investisseurs, les engagements au fur et à mesure, le 12% va se transformer en 7-8%.
Oui.
Donc c'est ça le marché. Donc il faut en être conscient, il n'y a pas de surpromesse. Après, ça change la durée, la liquidité. Donc ça, c'est deux éléments importants. Et puis, l'autre frein, c'est quand même les canaux de distribution. Parce qu'il faut accéder aux produits.
Bien sûr.
Connaître et accéder.
Si on essaie d'ouvrir quelques perspectives pour nos auditeurs ce matin, alors je ne vais pas vous demander de lire dans le marc de café ou dans les entrailles de poulet, mais de prendre un petit peu de longueur de vue, quelques années, les grandes tendances de ce private equity, qu'est-ce que ça peut être?
Alors,
qui va baser les investissements de Turenne, tiens?
Dans ce que fait Turenne, dans le small cap, ce qui est important, c'est donner du sens à son investissement. Donc c'est ça qui est important et c'est ça qui est en train de se développer. Ce sont des fonds avec des partenaires locaux qui vont distribuer pour développer leur territoire. Donc ça, c'est vraiment important. Quand on parle santé, services, digital, ça, c'est des tendances de long terme. Mmh. Mais la particularité small cap, c'est vraiment ça, c'est le régional.
Allez, petite question que je pose presque à tous les intervenants. C'est vrai que c'est une forme de résumé de ce qu'on vient de se dire là pendant une petite douzaine de minutes. Mais qu'est-ce qu'il doit retenir l'épargnant ce matin pour se convaincre d'y aller?
Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour transmettre un patrimoine? Et ça, c'est très important parce qu'on ne va pas faire la même chose dans les deux cas. L'horizon, la durée, les histoires de liquidité ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est très important. Et la structuration, quelque part aussi, de l'investissement peut être différente. Donc ça, c'est la première question à se poser. Parce que si on rentre dans un fonds classique, c'est long, c'est bloqué, etc. Donc il y a quand même des contraintes. Donc l'horizon de temps, finalement, pourquoi je le fais? Et puis, le sujet, je pense, un des sujets clés dans le private equity... Celui qui est important, c'est la diversification. Parce que le gagnant d'hier, le meilleur, le plus performant d'hier, n'est pas forcément le plus performant de demain. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas immortel. Donc il y a des gens, dans les équipes, ça va tourner. Ça, c'est la réalité. Parce que le cycle économique n'est pas le même. Donc il y a des facteurs.
Donc il faut toujours rester hyper attentif et à l'écoute de son secteur économique. Merci beaucoup Gilles de Foucault, directeur de la clientèle privée de Turenne Group dans Cœur de Patrimoine.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et la rentrée est là, mais elle est déjà bien agitée. Hein. Je vous fais pas de dessin. Contexte politique plus que tendu en France. Déficit public qui inquiète. Marchés internationaux chahutés. Bref, beaucoup d'incertitudes. Mais aussi, eh bien, quand le contexte se tend, il y a peut-être des opportunités à saisir. Et pour en parler, on reçoit Marc Favard. Bonjour Marc.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Directeur général de Promépart Asset Management. D'abord, peut-être, petit panorama d'ensemble. Climat de rentrée compliqué, je le disais. Est-ce qu'il faut être inquiet ou confiant ?
Écoutez, déjà un bel été. Hein, on a tous pu prendre des vacances sans grosse volatilité. Et si je reprends les grands messages de l'été, côté entreprise, plutôt des bonnes publications aux États-Unis et en Europe, elles s'étaient un petit peu abîmées avec l'évolution du dollar et les hypothèses sur les tarifs douaniers. Mais c'était quand même des bonnes publications. Donc ça, c'était plutôt rassurant. Disons ça, c'était le mois de juillet. Et puis au mois d'août, on a eu toujours des banques centrales, il ne faut pas l'oublier, dans le monde entier qui baissent les taux. Donc on est assez, à part la Fed, et ça va peut-être venir, mais un message peut-être un peu plus accommodant de Powell et des taux qui continuent de baisser. Donc ça aussi, quelque chose de satisfaisant. Et puis la Chine, boursièrement, qui a pointé son bout du nez. Voilà, ça c'était le contexte et pas de mauvais chiffres d'inflation. Et là, on rentre dans un petit peu le dur, les mois de septembre et les mois d'octobre, qui sont les mois de réflexion des marchés, souvent où on a de la volatilité.
Mais du coup, vous avez la première impression là, du début septembre, c'est de se dire, finalement, aujourd'hui, les investisseurs sont plus attentistes que l'an dernier à la même période, parce que contexte politique, contexte déficit, etc., de comptes publics, ou pas tellement, en fait ?
Les performances des indices boursiers sont quand même remarquables. Donc le sujet plus des investisseurs, c'est de courir de courir après cette hausse et de se dire quand est-ce que je vais pouvoir y rentrer à bon compte et faire des mouvements de gestion cohérents. Parce qu'on voit bien, hein, d'une manière générale, la hausse des marchés, elle a été tirée par la hausse des valorisations. Donc les valorisations, c'est pas un univers tranquille, elles sont plutôt chères partout, même en Europe, hein, puisque les bénéfices n'ont pas monté, les valos ont monté. Donc on attend de pouvoir acheter pour les bonnes raisons, c'est-à-dire une croissance économique qui se stabilise, qui reste quand même faiblarde en Europe, pas booming en Chine malgré que la Chine monte. Et puis les États-Unis, on voit bien le dilemme, c'est est-ce que ça va ralentir ? Et les marchés, avec un chiffre qui est devenu le chiffre le plus important, c'est les marchés de l'emploi aux États-Unis.
Alors, je suis désolé, je vous ramène à chaque fois dans notre petit hexagone. Ouais. Vous allez me dire, on s'en fiche parce qu'on est sur une planète finance beaucoup plus globale. Malgré tout, en France, on a des chiffres qui circulent. 44 milliards d'euros d'économies, ça c'est ce que nous dit le gouvernement. On parle de suppression de jours fériés, il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. Mais une fois qu'on sort de tout ça, il y a une idée qui commence à tourner un petit peu et qu'on lit dans la presse, etc. C'est ce qu'on appelle le scénario à la grecque. Et c'est vrai qu'on a abondamment, il y a quelques années, commenté cette espèce de dérapage grec qui a amené à la situation qu'on a connue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la France, pays fondateur de la zone euro, etc., joue finalement sa crédibilité financière ?
Non, je ne pense pas que le moment de vraie vérité, ce qui serait dramatique pour la France, ça serait une récession. C'est-à-dire que là, avec 6% de déficit, plus une récession qui n'amènerait à 11%, là, ça serait très chaud. D'accord. Là, on voit bien, c'est les primes de terme, hein, partout, d'ailleurs pas seulement en France, qui montent. On fait moins confiance aux États qui sont endettés. Et l'anomalie, c'est la France en Europe. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui le positionnement des spreads de taux, hein, on a un rating meilleur que l'Italie, mais on a la même rentabilité. On a les mêmes taux. Même la Grèce a des taux plus bas que nous. Donc la France, c'est vraiment l'anomalie. Et les marchés l'ont repéré. Donc on a pris 15 centimes sur le spread. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience, mais tout le monde a bien compris qu'il va probablement rien se passer. Et on sait tous ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut réduire la voilure, travailler plus longtemps, gérer les retraites, le système social, il faut qu'il soit un petit peu moins généreux, il faut rééquilibrer, mais certainement pas, où les marchés aiment moins, c'est quand on va le faire avec plus d'impôts et moins d'économies. Oui. Bon, là, apparemment, M. Macron ne veut pas démissionner. Donc, les sujets, c'est un nouveau gouvernement technique presque, qui ne peut pas forcément agir, mais qui ne provoque pas quand même de séisme. Mais le problème, c'est que plus le temps passe, le service de la dette, c'est l'actif, qui est maintenant devenu la partie la plus importante. C'est difficile, mais on n'est pas à la Grèce. Quand on prend effectivement notre déficit commercial et le déficit généralement de la balance des paiements, on n'est pas à des moments où le FMI intervient. C'est pas ça. D'accord. La France peut toujours payer, mais ça sera toujours plus difficile. Et c'est plus on attendra, plus ça sera difficile. Mais pour l'instant, rien ne se passe.
Et alors, s'il y a ou s'il devait y avoir une crise de confiance sur la dette, l'épargnant qui nous écoute ce matin, il se pose peut-être la question de se dire comment je peux me protéger si vraiment la France connaît ou traverse une crise de confiance.
Alors, évidemment, déjà depuis un certain temps, c'est de diversifier ses actifs, mais diversifier parce que c'est assez logique de le faire et que c'est facile de le faire. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on n'avait pas la possibilité de se diversifier aussi facilement. Donc, par exemple, un patrimoine en actions n'est certainement plus aujourd'hui, n'a plus besoin d'être investi sur les valeurs françaises. Donc, une diversification, probablement que sur les obligations, vous voyez que le rating, on parle de se diversifier sur les obligations, et bien, il suffit d'aller sur les pays un peu plus nordiques, où les ratings, la situation financière est correcte. Donc, il y a, avec tous les outils que nous avons aujourd'hui à notre disposition, même pour un particulier, il y a possibilité de se diversifier. Alors, c'est clair que les fonds euros, que les banques françaises, que certaines valeurs domestiques seraient plus menacées, soit de ponction fiscale, oui, soit de hausse des spreads. Donc, il suffit de ces valeurs-là, on les repère assez. Je pense que nos investisseurs sont en général plus diversifié qu'avant. Avant, l'investisseur français, quand il avait des actions, il avait le CAC 40. Je pense qu'il est plus large, donc il y a moyen de le faire. Il faut déjà l'avoir fait. Mais il ne faut pas paniquer, parce que vous l'avez vu, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, au moment de la dissolution les marchés, les valeurs les plus marquées par le domestique avaient baissé de 10% une semaine. Là, ils l'ont fait en 2 jours. La situation est simplement un peu différente, c'est que tous les titres qui ont baissé, Vinci, Société Générale Orange, avaient fait un parcours quand même très impressionnant. Donc c'est plus une respiration,
une respiration qu'une vraie claque. Bon, ça c'est pour la situation française. Si on regarde, si on élargit un petit peu notre spectre européen, c'est vrai qu'il y a aussi les questions géopolitiques avec tout ce qui tourne autour de l'Ukraine. Quand on regarde les marchés vis-à-vis de cette géopolitique, on peut parfois avoir l'impression de se dire « Tiens, eux, ils lisent pas la même presse que nous, ou ils ont pas les mêmes infos que nous, parce qu'on a l'impression que eux se préparent presque les marchés déjà à l'hypothèse d'une paix, et c'est pas ce qui transparaît dans la presse des derniers 10 jours, on va dire. Est-ce que vous vous dites « Tiens, le marché est précurseur et tant mieux ?» Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels un épargnant peut se positionner pour essayer de se dire « Tiens, le marché est précurseur et je vais en profiter ».
Oui, en Europe, les trois thèmes centraux sont clairement l'infrastructure en Allemagne, donc jouer des investissements qui sont très propices à ces investissements massifs que fait l'Allemagne. Il y a cet investissement dans le réarmement, donc avec tous les thèmes de la défense, et il y a éventuellement la thématique ukrainienne. Donc l'idée, c'est de trouver les titres qui sont à la conjonction, au milieu, au barycentre de tout ça. Donc c'est essayer de se positionner. Donc naturellement, on peut se dire que les valeurs allemandes moyennes sont celles qui profiteront le plus de ces trois environnements, sachant que, comme vous l'avez dit, Cédric, le marché se pose un peu de questions quand même sur la défense, qui a un petit peu calé. Donc, et chacun cherche des investir à bon compte et en attendant peut-être une correction. Mais sur le long terme, on sait bien que cette thématique va être porteuse, mais peut-être qu'elle a été un petit peu inflatée. Et quand il s'agit du thème de l'Ukraine, on voit qu'on va un petit peu vite en besogne parce que le marché n'a même pas envie encore de jouer l'infrastructure allemande. Parce qu'en en Europe, on décide, mais on ne dépense pas aussi vite qu'aux États-Unis. Mais par contre, c'est vrai pour 2026.
On fait le plan, mais...
Voilà, donc 2026, c'est certainement la conjonction de ces trois éléments.
Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas traîner. Il faut être aussi précurseur.
Je pense qu'aujourd'hui, cette thématique doit être dans les portefeuilles. Alors, les thématiques qu'on avait l'habitude de jouer, très clair, c'était la défense, mais peut-être qu'il faut aller plus large. On a évidemment le ciment, De manière générale, un titre comme Arcelor, Mittal, est un titre qui a un petit peu à la conjonction. L'acier, c'est la reconstruction aussi de l'Ukraine,
ouais, c'est
les plans d'investissement, c'est beaucoup de choses. Vous avez la mobilité. Vous savez que l'Allemagne, en termes, il suffit de se balader en Allemagne, vous n'avez qu'à regarder les routes et les transports ferroviaires, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a un acteur français, Alstom, qui en profite, mais il y a une petite valeur, enfin petite, pas si petite que ça, qui s'appelle Knorr, qui est dans tout 70%, c'est des freins pour le transport ferroviaire et aussi les freins pour les bus. Donc il y a pas mal d'idées, mais il faut pas aller trop vite, mais il faut se positionner là-dessus.
Et ça veut dire que ce sont des pépites qu'on va retrouver chez Promépar, sur lesquelles vous, justement, agissez en ce moment.
Oui, alors ce que je suis venu en regardant, mais finalement, les 10 premières positions que j'avais dans mon fonds bref de croissance. Et quand je regarde ce que j'ai aujourd'hui, j'ai toujours des banques, donc Banco Santander et Société Générale. Société Générale pour la recovery et Banco Santander pour le monde. On croit beaucoup à l'électrification, notamment de l'Allemagne, et on a du Prysmian et du SPI. On a la Chine, on voit bien que la Chine et l'IA se réveillent. Les résultats d'Alibaba vendredi étaient de moyenne facture, mais ce qui a plu au marché, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas que les valeurs américaines, c'est pas que les semi-conducteurs. Ouais. Donc, vous avez de la diversification. On aime bien toujours Airbus parce que c'est encore 70% aéronautique et défense. Astra, on parlait très peu de la pharma. Voilà, c'est des choses. Et puis, je parlais d'Arcelor, Freeport, le cuivre. Et voilà, donc c'est nos portefeuilles. Et qu'est-ce qu'on a fait récemment? On a continué à renforcer la Chine. Ça, c'est clair dans nos portefeuilles. On a un petit peu allégé un petit peu avant parce que ça avait tellement monté, pas parce qu'on savait que ce qui allait se passer en France, un petit peu Société Générale et SPI. Donc, on a été un petit peu mobile dans la diversification et on est relativement bien investi pour démarrer le mois de septembre.
Alors, dans les périodes de questionnement comme ça, il y a toujours des espèces d'arbitrages un peu classiques qui reviennent en tête des épargnants. Se dire, tiens, action versus obligation, qu'est-ce qui vaut encore mieux le coup? Enfin voilà, qu'est-ce qui est compétitif là? Les actions, elles gardent leur plus ou est-ce que finalement, parce que les taux sont encore élevés, c'est intéressant d'avoir un peu d'obligataires?
Alors, sur les taux, il faut se dire que les taux courts sont à 2%. L'inflation en Europe est à 2%. Donc, je gagne rien en attendant, mais au moins, je ne perds pas. Mais il faut quand même que cet argent-là, je le fasse travailler. Quand je me déplace un petit peu sur des obligations un petit peu plus longues, je vais avoir quoi, du 3, du 3,50, donc c'est pas énorme. Donc, et en plus, avec la possibilité que les taux bougent. Donc, ce 3,50, il n'est pas garanti. Donc, il y a toujours, parce que c'est un peu confort d'aller sur des taux, des fonds datés, qui sont des fonds plutôt sur les entreprises, et vous pouvez avoir du 4, du 4,20, échéance 2029. La dette émergente a quand même son attrait, mais toujours pareil en diversification, parce que c'est toujours pareil, ce fameux mot diversifié. Il a du sens, mais voilà, c'est pas là qu'on va gagner beaucoup d'argent pour l'instant. Alors, ce scénario, il serait faux si l'économie ralentit fortement. Et là, vous avez les obligations et celles avec une durée courte et pas trop liées à des investissements trop risqués qui redeviendraient plus intéressantes et on pourrait gagner en capital. Mais quelque part, aujourd'hui, la diversification qu'on peut faire, elle a été faite un peu de manière intelligente à un moment sur l'or, qui était plus diversifiante que les taux d'intérêt. Je parlais de la dette émergente qui, quand même, est diversifiante. Là aussi, dites-vous bien que le monde émergent, avec un dollar qui est moins flamboyant, les sociétés et la croissance du monde émergent va quand même être plutôt favorable pour les années à venir. Et là, vous avez du 6%.
Allez, pour finir, parce qu'on a nos auditeurs, ce sont bien évidemment les professionnels qui s'écoutent les uns les autres, mais on a aussi nos épargnants, nos investisseurs particuliers qui cherchent aussi à diversifier leurs conseils. Le tips de Marc Favard pour cette rentrée qu'on a qualifiée quand même d'un peu agitée, qu'est-ce qui serait ?
Alors, quand on donne des conseils à des particuliers, où il y a les spécialistes et ceux moins spécialistes. Donc, je suis aussi avec une idée à 10 ans. Quand on cite à 10 ans, on parle souvent d'Air Liquide. C'est la valeur chérie qui est souvent citée parce que le passé, le présent et l'avenir.
Le plus dur étant pas de l'acheter, mais de la vendre.
Mais je trouve que voilà, un titre comme Veolia, l'eau peut avoir le même potentiel que l'air. Voilà. Donc, on trouve que cette société, pour l'instant, la croissance est considérée comme pas assez forte, mais il y a 30% de son activité sur ce qu'on appelle les métiers boosters vont continuer de croître avec une société peu cyclique, qui a du potentiel et qui permet de dormir tranquillement et qui n'a pas fait une belle progression cette année.
Et ben voilà, donc un conseil, peut-être regarder cette histoire d'eau avec Veolia. Merci beaucoup Marc.
Merci Cédric.
Marc Favard pour Promépar Asset Management, éclairage donc complet sur nos marchés de rentrée. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité d'être là chaque semaine au rendez-vous. On est ravis de reprendre ensemble. On se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit. Et surtout, restez bien conseillés.
Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.